Préparation au chemin initiatique. Cet enregistrement de Triggery New en français est une traduction de sa présentation publique qu'il a donnée au Brésil en mars 2002.
Voyez l'importance pour nous de travailler le corps mental, de placer le corps mental dans des choses plus élevées. Ici, une personne dit qu'elle a rêvé 4 fois d'un avion qui marchait le long des rues et des routes. Et de temps en temps seulement, très rarement, cet avion volait. Voyez, ce qu'on lui montre ici, c'est que l'avion, c'est-à-dire son mental, doit cesser de marcher sur le sol, doit cesser de marcher sur la terre. Le corps mental a été fait pour voler. L'avion a été fait pour voler, voyez. 4 fois, elle a rêvé de cet avion qui continuait de marcher sur la terre et qui ne volait pas. Alors, ceci c'est une invitation, un signal qu'il est bien temps pour elle de placer son mental dans d'autres sujets différents de ceux dans lesquels elle les place. Et de nombreuses fois, cette personne demande « Mais qu'est-ce que je dois faire ? Finalement, je pense normalement. » Voilà. C'est parce qu'elle pense normalement que son avion est abandonné sur la terre. Ça, c'est le mental normal, le mental concret. Si vous vous occupez seulement des choses concrètes, si vous vous occupez des choses objectives, si vous occupez tout le temps votre mental avec les choses du monde, de la vie, des gens, enfin, tout ça, c'est le sol, c'est la route. Vous avez besoin d'entrer dans une autre dimension avec ce corps mental. Vous avez besoin de vous occuper des choses concrètes quand c'est nécessaire, mais pas d'en rester là. Cet avion doit s'élever, il doit voler et vous devez vous occuper des choses de l'esprit, des choses de l'âme, des choses subtiles, des choses internes, jusqu'à ce que ce rapport change. Parce que quand l'avion est dans l'air, quand il vole, c'est-à-dire quand le corps mental est déjà suffisamment entraîné, alors la plupart du temps, vous êtes dans le mental occupé avec les choses internes. Ou, en même temps, vous êtes occupé avec les choses concrètes, mais jamais vous ne laissez le mental mettre les choses concrètes au premier plan. Quand le mental est occupé avec ces choses externes, avec ces choses humaines, avec ces choses du monde, il est nécessaire d'avoir toujours présent, au moins dans un coin du mental, là où d'autres choses sont en mouvement, d'autres choses sont prises en compte. La régénération du mental, c'est justement ce processus. Ce qui veut dire qu'au lieu de penser seulement aux choses concrètes, de penser seulement aux choses physiques, de penser seulement aux choses de la vie, cette vie que tout le monde mène, de seulement penser à ça, vous avez besoin d'occuper cet espace avec d'autres choses, d'autres pensées, avec une autre vie, une autre recherche. Alors, tout ceci occupera un espace de plus en plus grand. Et quand cette partie non matérielle, non physique, cette partie non humaine a déjà pris une place suffisante dans le corps mental, quand la plus grande partie du mental se consacre déjà à d'autres choses, à d'autres sujets, à d'autres plans, à d'autres niveaux, alors là, un processus de transmutation du mental commence réellement. Là, le mental cesse d'être ce moulin qui fabrique tout ce que vous voyez dans votre propre corps mental pour devenir quelque chose de très tranquille, comme un miroir qui commence à refléter, là, des idées et des pensées supérieures. Mais vraiment, Cet avion a été fait pour voler. Il n'a pas été fait pour rester sur le sol. Beaucoup de personnes y pensent qu'il est difficile de réussir à voler à cause de tout ce qui arrive alentour. Parce que ce qui arrive alentour, ce ne sont pas des choses qui permettent facilement à cet avion de s'élever. Ce sont des choses qui, au contraire, retiennent cet avion ici, en bas. Alors là, c'est très simple. Quoi qu'il arrive, au lieu de votre mental regarde ça, et seulement ça, votre mental regarde ça et demande « Qu'est-ce que ceci cherche à me dire ?» Alors, vous sortez déjà de ça, et donc, un événement plus concret peut se produire à ce moment-là. Et si votre mental regarde ça en demandant « Qu'est-ce que ceci veut me dire ?» Votre mental sort de là, il est déjà sur un autre plan. Alors, ceci continue son processus, votre mental regarde ça, est en contact avec ça. Mais ça a déjà un autre sens, il voit ça se développer, non pas pour s'identifier avec, il voit ça se développer pour comprendre ce que cela signifie, ce que cela montre. Et il finit par comprendre, et quand il voit ce que cela lui montre, tout de suite, il se transforme. Au moment où il se transforme, ceci n'attire plus son attention. Ceci peut se produire là-bas. Il jette un coup d'œil, il voit, mais tout ça n'attire plus son attention. Alors, quoi que ce soit que vous arrive ou qui arrive alentour, si votre mental regarde ça et dit « Qu'est-ce que ceci cherche à me dire ?» Il finit par le découvrir. Quand il le découvre, il fait les changements nécessaires. Et alors, pour vous, ceci peut continuer d'exister. Mais ça n'existe plus. Ça ne vous touche plus parce que ça a déjà joué en vous le rôle que ça devait jouer. Vous avez déjà changé quand vous avez vu ce que cela voulait vous dire. Alors, ceci continue de se produire, mais c'est comme si ça n'existait pas. Le mental doit apprendre à connaître ce jeu pour pouvoir s'élever de plan en plan, y placer son observation, placer son point de vue, en des niveaux chaque fois moins matériels. Parce que si le mental est déjà bien entraîné à percevoir ce qui est occulte, à percevoir l'immatériel, à percevoir ce qui n'est pas évident, ce qui est caché dans des situations, des êtres, des personnes, si le mental est habitué à voir ça et voir déjà ce qui est interne, ce mental va se libérer de beaucoup d'influences et va réussir à se focaliser sur des choses internes, réussit à se tourner vers son être intérieur, mais ce travail de demander « qu'est-ce que ceci cherche à me dire ?» ça, c'est vraiment fondamental pour ce processus du mental, pour que cette élévation du mental puisse se faire. « Qu'est-ce que ceci cherche à me dire ?» c'est très important. Vous voyez, très souvent, nous sommes réunis ici pour un partage. Quelque chose se passe. Tout le monde regarde là-bas pour voir ce qui arrive. Je ne sais pas si parmi ces 300 personnes, il y en a une qui se demande « Qu'est-ce que ceci cherche à me dire ?» Mais, pour regarder là-bas, pour voir ce qui arrive, tout le monde est prêt. Ça, c'est le mental ordinaire. C'est exactement le mental normal. Quand quelqu'un vous dit quelque chose qui vous blesse, le mental normal entend cela et il est blessé. Le mental qui est sur le chemin de la transformation n'est pas blessé. Le mental entend ça et dit « Qu'est-ce que cela cherche à me dire ?» Quel est mon rôle là-dedans? C'est très différent. Et ceci est très important, parce que si ce qui arrive vous attend et vous blesse, vous êtes marqué, vous restez marqué. Ceci n'est pas bon, parce qu'ensuite, il faut effacer cette empreinte, il faut la faire disparaître. Il est donc très important que le mental soit préparé pour cette vie plus évolutive. Alors, quoi qu'il arrive, qu'est-ce que ceci cherche à me dire? Et il commence déjà à résoudre ça, ainsi il ne restera pas marqué par ce qui est arrivé. Parce qu'il s'occupe de sa transformation, il s'occupe de chercher, de comprendre ce que ceci lui apporte. Maintenant, une personne demande, comment pouvons-nous cesser d'être sous l'influence de toutes ces choses qui nous entourent, ces choses de notre mental, surtout dans le monde occidental et dans les grandes villes? Comment pouvons-nous cesser d'être sous cette influence? Le processus est le même dans tous les cas. C'est vous-même qui élevez votre mental, vous regardez attentivement, vous portez votre attention sur ce qui est supérieur, ce qui a le plan élevé, et vous ne passez pas beaucoup de temps à observer les choses négatives. Les choses négatives, on les regarde uniquement pour les enregistrer. On n'a pas besoin de les regarder beaucoup. Les choses négatives, vous les regardez, vous les enregistrez, et c'est tout. Si vous pouvez aider, vous aidez. Si vous ne pouvez pas aider, vous enregistrez et tout de suite vous allez vers autre chose. Vous ne restez pas là parce que si vous restez focalisé et négatif, ce que soit en vous-même ou envers les choses, alors là, cette élévation du mental devient plutôt compliquée. Maintenant, une personne pose une question au sujet des initiations. Comme si elle avait déjà été initiée ou comme si les initiations étaient des choses très ordinaires, tout à fait normales. Et elle demande quels seraient les signes perçus. Un des signes que donnent les initiations, un des signes les plus profonds que laissent les initiations, c'est le silence. Le silence. Un individu qui passe par une expansion de conscience doit, pour commencer, vivre la loi du silence. On n'a jamais entendu un initié dire qu'il est un initié. Ça, on ne l'a jamais entendu. Celui qui dit qu'il est initié, je ne sais pas s'il comprend bien de quoi il parle. Parce que la loi du silence est une loi de base, une loi fondamentale dans ce cas-là. Pour que nous allions dans ce sens-là, pour nous préparer à ça, il est nécessaire qu'on apprenne non seulement à garder le silence au sujet de tout, mais avant tout à notre propre sujet. Toutes les personnes qui ont un grand besoin de parler d'elles, de se raconter, de se répandre, de se confesser et tout ça, toutes ces personnes doivent apprendre la loi du silence. Tout ça doit être éduqué jusqu'à ce que l'individu parle vraiment seulement quand c'est nécessaire, quand c'est pour le bien, quand ça va aider. Parler de soi vraiment, dans quelques rares occasions, dans ces rarissimes occasions où il est correct de parler de soi. Parfois, c'est pour stimuler l'autre avec sa propre expérience. Je ne vois pas pourquoi parler de soi. C'est une chose tellement étrangère que je ne sais même pas ce que c'est. Mais le silence est fondamental dans ces expansions de conscience, ainsi que la disposition au service. La disposition au service et l'acceptation de tout type de purification. Alors, pendant que nous nous purifions, nous nous plaignons, nous nous défendons, nous nous préservons, tout ça, c'est naturel. Cependant, sur le chemin de ces expansions de conscience, Pour avoir ces expansions de conscience, nous devrions avoir la purification comme principal recours, comme principale clé. Alors, quelqu'un qui s'y prépare pour ça, ou quelqu'un qui est déjà préparé pour ça, ne s'alarme pas, ne réclame pas, n'est pas dérangé, quel que soit le type de purification par lequel il passe. Et ces purifications ne sont pas seulement physiques, elles sont organiques parce que les cellules, les corps, doivent devenir plus perméables, plus sensibles. Les corps doivent apprendre à répondre à une vibration plus élevée. Alors la purification organique, la purification physique est aussi fondamentale. Et si un individu se prépare pour une expansion de conscience, il sait intérieurement que cette purification est nécessaire. Et il sera vraiment le dernier à parler de tout ça. Le dernier à se plaindre, le dernier à se lamenter, parce qu'il sait tout ce que cela représente. Alors, vous voyez que ce chemin n'est pas pour n'importe qui. Parce que dès qu'une chose commence à devenir inconfortable, nous commençons déjà à perdre notre équilibre. Nous cherchons à remédier à cela, nous commençons à éviter certaines choses purificatrices, ce qui veut dire que nous sommes sur le chemin de la purification, mais pas sur le chemin initiatique. Sur le chemin initiatique, nous nous trouvons devant les mêmes choses que les autres personnes, mais notre attitude est complètement différente. Notre attitude est une attitude de silence face à tout ça. Pas seulement ne pas parler, de silence intérieur lui-même. C'est que vous êtes en train de vous purifier, vous êtes dans une épreuve, vous passez par une épreuve, et intérieurement, vous ne vous inquiétez pas, vous ne vous effrayez pas, non plus intérieurement, pas plus que vous ne réclamez intérieurement. Tout ça fait partie d'un processus de purification. Tout ça fait partie d'un processus de dépuration nécessaire, indispensable pour que vos corps puissent recevoir une énergie plus puissante. Et donc, recevant une énergie plus puissante, vous pouvez élargir votre champ de service et ne pas alimenter les conflits du mental. Quand le conflit du mental commence, il est nécessaire de ne pas alimenter ça. Et de maintenir une pensée positive, ceci est très important. Quand nous n'allons pas dans cette direction, quand les pensées positives ne prédominent pas en nous, et quand les conflits du mental qui arrivent toujours parce que le corps mental est formé par des cellules qui viennent du réservoir général des atomes, et que dans ce code génétique, l'hérédité existe, alors, il se peut que le fonctionnement de notre corps mental ne soit pas compatible avec notre conscience. Notre conscience peut avoir dans notre corps mental des choses inadaptées. C'est parfaitement normal, parce que notre atome permanent mental est celui qui est là depuis le début. Mais tout le reste du corps mental est fait d'atomes qui viennent de partout. Donc, nous devons apprendre à ne pas alimenter les conflits qui surgissent en ce moment-là. Les conflits qui surgissent dans le corps mental peuvent ne pas être les nôtres. Ces conflits qui surgissent là, les situations qui surgissent là, parce que les atomes sont hétérogènes, parce que le corps mental est sur un rayon différent du rayon de l'âme, différent du rayon de la monade. Enfin, ce sont des jeux d'énergie, des jeux de rayons dans lesquels on ne doit pas se laisser prendre. C'est la même chose quand vous avez une douleur au poumon et que vous vous laissez prendre par ça. Vous avez une douleur au poumon, mais traitez la douleur, vous faites quelque chose, mais ne vous laissez pas submerger par ça. Vous n'êtes pas votre poumon. C'est le poumon qui est malade. Vous n'êtes pas cela. Vous êtes autre chose. Alors, vous ne vous laissez pas prendre avec ça. Et c'est la même chose pour les conflits du corps mental, comme pour les douleurs mentales. Ce qui arrive là, dans les ondes mentales, ce sont des choses qui, dans la plupart des cas, ne correspondent pas à notre conscience. Alors, sur le chemin normal, sur le chemin des gens, tout ça trouble beaucoup de monde. Tout ça fait comme si la vie des gens dépendait de ça, de ces conflits, de ces vagues, de tout ça. Mais sur le chemin initiatique, quand nous nous préparons à une initiation, ça devient tellement évident, tout ce jeu devient tellement évident que finalement, comme ça, nous assumons vraiment cette attitude de ne pas nous laisser prendre à nos propres conflits. Nos propres conflits ont diverses origines. Ils ont de nombreuses explications. Nous ne sommes pas cela. Alors, sur le chemin initiatique, sur le chemin de la préparation à ces initiations, nos corps doivent déjà être entraînés pour qu'ils soient ce qu'ils sont dans la conscience elle-même, sans se mélanger avec les conflits qui existent en eux, dans les cellules, dans les structures, etc. Ces expansions de conscience n'ont pas lieu seulement quand on les cherche, ou seulement quand on attend, ou seulement quand on les désire. Le même processus que celui de notre expansion de conscience se produit avec la planète. La planète aussi a des expansions de conscience. Comme en ce moment, cette planète se prépare, elle est aux portes d'une initiation. Alors, comme la planète est sur ce chemin, sur le chemin d'avoir une expansion de conscience, de passer pour une initiation, tout ce qui est sur cette planète reçoit aussi l'énergie de tout ça. Si nous sommes sur une planète qui se prépare à une expansion de conscience, il est évident que l'humanité qui est sur cette planète peut aussi s'y préparer. Cette humanité remplit toutes les conditions pour se préparer à ça. Et ça se voit à l'état de chaos qui existe partout. Ça se voit à l'état de souffrance qui existe en sein de cette humanité, non? En certains endroits de la Terre, principalement. Tout ceci est une dépuration. Tout ceci est une purification qui a tout à fait l'air, qui a toutes les caractéristiques d'une expansion de conscience pour toute l'humanité. Quand on parle d'une expansion de conscience pour toute l'humanité, il s'agit de l'humanité comme un tout, mais il se peut que ça n'arrive pas dans tous les êtres. Les êtres qui ne peuvent pas passer par cette expansion de conscience pourront être dirigés vers d'autres niveaux ou dirigés vers d'autres mondes qui finiront de les préparer. Mais nous qui sommes en ce moment sur une planète qui se prépare pour ça, nous sommes automatiquement sur le chemin de cette préparation. Alors, il serait bon que nous cherchions à reconnaître nos épreuves et que nous cherchions à comprendre les situations compulsives vécues dans ce cadre. Parce que nous pouvons passer par certaines épreuves, nous pouvons passer par certaines situations qui nous amènent à une dépouration précise, une purification déterminée. Et là, une personne dit qu'à la page 142 du livre Secret dévoilé, il est dit qu'il y a une différence entre le processus d'expansion de conscience à la surface de la Terre et celui de l'humanité interterrestre. Bon, pour que nous ayons toujours une expansion de conscience, le glossaire dit que nous avons besoin d'une stimulation extérieure. Personne n'arrive à cette expansion de conscience par lui-même. Dans l'évolution naturelle, on y arrive par soi-même. Mais quand une transition vers d'autres types d'évolution commence, les chemins initiatiques par exemple, vous ne pouvez pas y arriver par vous-même. C'est ce que le glossaire veut dire. Et ça veut dire que quand nous sommes déjà préparés à entrer sur ce chemin, un rayon, une énergie, commence à nous stimuler spécialement pour ça. Ou un rayon du corps qui est le moins préparé, ou un rayon du corps qui doit participer au mouvement d'expansion. Mais en fait, il y a toujours un rayon ou un ensemble de rayons énergétiques qui sont là pour nous stimuler spécialement. Et certains rayons commencent à nous stimuler, certaines énergies commencent à nous stimuler parfois même. Ce sont des énergies de notre propre monade, de notre propre âme, qui commencent à nous stimuler pour ça. Parfois, les corps, les véhicules, ne sont pas préparés pour cette stimulation spéciale. Mais ceci doit se faire parce que c'est écrit dans la vie de cet individu. Cependant, il ne peut pas être détruit par une stimulation plus forte que celle que ce corps, en ce moment, peut recevoir. Ceci peut arriver de la façon suivante. Un membre de la hiérarchie, un être ou une conscience sert d'intermédiaire entre l'énergie de ces rayons, cette stimulation et l'individu. Alors, l'individu ne cesse pas de recevoir cette stimulation, il ne cesse pas de recevoir l'impulsion, mais il est comme protégé par cette entité ou par cette conscience qui est là autour, qui accompagne ce processus. Ce sont des consciences et des êtres qui ont eu des expériences très positives avec nous. Ce sont des êtres ou des consciences que nous avons servi dans le passé et après que cette conscience ait évolué, après que cette conscience se soit transformée, alors cette conscience peut être amenée à servir des hiérophantes. Cette conscience peut être amenée à servir des filtres au cours d'un moment pendant lequel nous devons recevoir une impulsion plus forte. Cette conscience qui vient nous aider à recevoir cela ne cesse pas non plus de nous stimuler. Rien que la présence de cette conscience déjà stimule l'expansion de notre conscience parce que là, les rayons, l'énergie agissent. Ils agissent là parce qu'ils comptent sous l'aide de cette conscience dans le sens où ce matériel supportera tout ça. Il n'existe pratiquement pas d'initiation sans cette aide extérieure. Et sans vouloir comparer, parce que c'est une autre histoire. Mais dans le même sens, vous avez lu là, dans Signe du Contact, que beaucoup de choses ici ont besoin, pour arriver, d'avoir à les côtés un être qui serve de hiérophante et qui serve d'intermédiaire pour que certaines choses puissent arriver. Dans tous les moments importants de notre vie, dans toutes les étapes vraiment fondamentales pour notre évolution, nous devons avoir cette stimulation extérieure. Extérieure, c'est une façon de parler. C'est peut-être une conscience, un être plus évolué, ou une circonstance qui vient nous donner une stimulation particulière à ce moment précis, pour que nous soyons dans les bonnes conditions pour recevoir cela. Ce qui nous stimule, ce qui nous accompagne dans le processus d'expansion de notre conscience, ce sont des consciences, ce sont des êtres reliés avec nous par le karma depuis le début. Ce sont toujours des êtres très connus qui en sont à un autre stade de développement. Mais vient à l'esprit une histoire. Une personne avait eu une ou deux expansions de conscience et elle devait en avoir une troisième. Mais pour avoir cette troisième, elle avait besoin d'avoir un contact physique face à face avec quelqu'un qui soit plus avancé. Alors, un jour, quelqu'un téléphona chez elle. « Vous allez sortir de chez vous aujourd'hui ?» demanda une connaissance. Elle répondit, « Non, je vais être chez moi. »« Ah, c'est bien, parce que Paul Branton va venir. » Paul Branton était dans cette ville. Elle dit, qui ? Paul Branton vient ici ? Oui, il vient. Vous êtes là ? Il vient aujourd'hui, dans l'après-midi. Le moment venu, Paul Branton apparut. Elle ouvrit la porte et il entra. Ils s'assirent tous les deux et bavardèrent. Il lui posa quelques questions et tout ça, ils bavardèrent un moment et ensuite il se leva et s'en alla. Bon. À partir de ce moment-là, il y eut une sorte de transformation chez cette personne. C'est-à-dire que là, une expansion de conscience devait être faite, mais qu'elle seule ne pouvait y arriver. Alors, il fallait ça. Que quelqu'un passe par là, arrive ici, parle un peu avec elle. Et quand elle me raconta cette histoire, je lui demandais. Mais comme ça, Paul Branton vous connaissait? Non. Je connaissais Paul Branton comme ça, de l'avoir lu. J'avais entendu parler de lui, mais dans cette vie, non. Nous ne nous étions jamais vus. Mais alors, vous étiez une inconnue pour lui? Non. Ça, c'était dans cette vie. Mais pendant de nombreuses vies, j'ai été son élève. Je lavais son linge, je cuisinais pour lui. J'étudiais avec lui. Dans cette vie, il m'avait dit, « Écoute, je viendrai. » Il est venu, c'est tout. Il y a toujours quelque chose comme ça. Bien, j'ai parlé d'une chose très simple, mais c'est plus ou moins comme ça. Et une personne demande, si nous pourrions aussi dire certaines choses au sujet des nuits obscures de l'âme, de Saint Jean de la Croix. Ce que nous appelons nuits obscures de l'âme, ceci est perçu après qu'on ait eu déjà une période de connaissance de l'âme. Pour ceux qui, jusqu'à présent, n'ont pas vécu l'âme consciemment, il n'y a pas de nuit obscure de l'âme. Il est nécessaire qu'on ait déjà vécu l'âme consciemment. Il est nécessaire qu'on ait déjà vécu la vie de l'âme pour percevoir quand une nuit obscure commence, ce qui veut dire que l'âme apprend à avoir une communication avec l'esprit. L'âme apprend à avoir une communication avec la monade, l'esprit. Et il y a certaines choses dans cette relation de l'âme avec la monade que l'âme va faire passer à la conscience et d'autres qu'elle ne va pas lui passer. Ce que l'âme va transmettre à la conscience se transforme en vie antérieure de l'être, se transforme en vie spirituelle dans la vie intérieure de cet être. Alors, cet être est déjà habitué à recevoir les échos de la relation de l'âme avec l'esprit. Alors là, on dit que l'individu vit la vie de l'âme. Dans la relation de l'âme avec l'esprit, il y a des phases au cours desquelles l'âme ne comprend pas très bien ce qui arrive. Il y a d'autres phases où l'esprit contrôle ce qui arrive à la conscience de l'âme. Enfin, dans cette relation de l'âme avec l'esprit, l'âme ne fait pas toujours preuve de la même lucidité. Dans ces moments-là, l'âme reste un peu abandonnée à elle-même pour qu'elle puisse développer certaines forces et pour qu'elle apprenne aussi à voir dans la foi sans que ce soit l'esprit qui lui montre. Alors là, quand l'âme passe par ce processus d'être seule avec elle-même, elle va probablement être attentif à ça, à l'intérieur d'elle-même. Et là, celui qui est habitué à vivre consciemment la vie de l'âme se trouve dans cette nuit obscure, parce qu'il ne vit rien. L'âme, à ce moment-là, ne lui transmet rien, parce que l'âme, à ce moment-là, est en train de travailler, elle aussi, le fait d'être seule avec elle-même. Dans la nuit obscure de l'âme, nous n'avons pas, par exemple, des rêves au sujet de la vie intérieure. Dans la nuit obscure de l'âme, nous n'avons pas de vision, nous n'avons pas d'intuition, nous n'avons pas d'impression, tout ce que nous avions, non? Alors, à travers notre perception, nous commençons à sentir un vide, comme si on n'avait rien à l'intérieur. Alors que nous avions cette force intérieure, nous avions ce feu, nous avions cette lumière, nous sentions cette présence, nous savions que tout ça était là. Quand l'âme est là, retirée en elle-même, quand l'âme est en train de résoudre les problèmes de son langage, de son dialogue, de sa relation avec l'esprit, alors elle est très recueillie pour résoudre tout ça. Ce ne sont pas des problèmes pour la conscience humaine, mais là, c'est comme s'il y avait un vide. Il n'y a pas de perception de vie intérieure. Il n'y a aucune preuve que vous avez une vie intérieure. Vous vous sentez comme si vous étiez dépouillé de compréhension spirituelle, de sensibilité. Vous vous trouvez ainsi dans une situation plutôt aride. Ceci, pour les sens, est très douloureux. Les sens trouvent ça très inconfortable, très douloureux. Pas seulement les sens extérieurs, mais aussi les sens intérieurs. Nos sens intérieurs qui perçoivent les choses par des voies internes. Ces sens restent très en dehors quand tout ceci arrive. Et le mental aussi, parce que le mental n'a pas la même clarté. De quel côté que le mental se tourne, il rencontre seulement la sécheresse. Il rencontre seulement cette absence de réponse. Il rencontre seulement quelque chose dont il ne comprend pas la cause. Mais comme c'est déjà une âme, comme c'est déjà un être qui est sur le chemin et qui a la foi, alors là, c'est le moment d'utiliser la foi. La foi existe pour ce moment-là. La foi existe pour nous maintenir stables. La foi existe pour nous maintenir équilibrés. Précisément quand ces choses intérieures disparaissent pendant une période. Quand ces choses intérieures entrent, non pas en récession, mais entrent dans un autre rythme. La foi sert à ça. Il est clair que celui qui arrive dans une nuit obscure connaît déjà très bien la foi. Sa foi est déjà travaillée et il découvre vite que seule la foi ici a de la valeur. Alors nous traversons une nuit obscure, nous traversons une période sans aucune conscience de ce qui se passe à l'intérieur, de ce qui se passe dans la réalité des choses. Nous traversons cette nuit obscure portée par la foi. Il n'y a pas d'autre manière de passer par cette expérience. Il n'y a pas d'autre manière de passer par cette nuit. Ce sont des périodes pendant lesquelles nous restons un peu inconscients de ce qui nous arrive intérieurement et de toutes ces choses qui fondaient notre vie, non? Nous sommes là pour une période plus ou moins longue. Cela varie. Cela varie en fonction de la valeur de cette nuit. Cela varie en accord avec ce qui s'y produit entre l'âme et l'esprit. Entre les choses que nous apprenons y traversant ces périodes dans la foi pure, parce que vraiment il n'y a rien sur quoi nous appuyer, rien qui nous soutienne, parce que ce sont des choses intérieures, ça n'avance à rien de faire quelque chose parce que c'est intérieur. Il n'y a rien qui résolve ça, sinon la foi. Ici, c'est la foi et rien d'autre. Il faut rester dans la foi et continuer dans la foi. Les résultats de cette nuit obscure, de cette expérience, les résultats intérieurs, spirituels, est très profond. Après une nuit obscure, l'âme est beaucoup plus proche de la monade. Le contact entre l'âme et la monade est beaucoup plus approfondi. Mais ici, au niveau où l'on est conscient, au niveau sur lequel nous vivons, la nuit obscure apporte une sorte de résultat immédiat et très palpable. Notre conscience reste impartiale devant toute chose. Si la conscience est face à une chose qu'elle croit réelle, et si tout à coup la conscience se trouve face à une chose qu'elle croit illusoire, elle reste impartiale. La conscience ne fluctue pas. Vous pouvez être devant n'importe quoi, la conscience reste impartiale, la conscience ne bouge pas, la conscience n'est pas ébranlée. Alors, vous êtes face à ce qui est considéré comme un bien, face à ce qui est considéré comme un mal. Vous voyez la différence, mais la conscience n'est pas ébranlée. La conscience reste totalement impartiale. La conscience va d'une chose à l'autre impartiale sans perdre son équilibre. Ceci est le résultat des nuits obscures. Ceci est ce qui arrive après la nuit obscure. Ceci est ce que la conscience apprend en cheminant dans la foi. Comme la foi ne demande pas d'explication, pendant cette période de sécheresse, vous ne demandez rien. Ça, c'est très important. Parce que poser une question et attendre une réponse, c'est une perte de temps. Si vous avez la foi, vous avancez sans poser de questions, et là, c'est plus rapide. C'est très mystérieux ça. Et celui qui n'a pas une foi à travailler, celui qui ne vit pas la foi, croit que tout ça est une chose monstrueuse. Mais ceci se passe dans ses plans, n'est-ce pas? Dans les plans de la foi, c'est comme ça.